Voltaire, les trois manières, compte en vers. Que les Athéniens étaient un peuple aimable, que leur esprit m'enchante et que leurs fictions me font aimer le vrai sous les traits de la fable. La plus belle à bon gré de leurs inventions fut celle du théâtre où l'on faisait revivre les héros des vieux temps, leurs mœurs, leurs passions. Voyez aujourd'hui, toutes les nations ont consacré cet exemple et cherché à le suivre. Le théâtre instruit mieux que ne le fait un gros livre. Malheur aux esprits faux dont la sottise et la rigueur condamnent parmi nous les jeux de Melpomène. Quand le ciel eut formé cette engeance inhumaine, la nature oublia de lui donner un cœur. Un des plus grands plaisirs du théâtre d'Athènes était de couronner, dans les jeux solennels, les meilleurs citoyens, les plus grands des mortels, en présence du peuple qui leur rendait justice. Ainsi j'ai vu Viard, ainsi j'ai vu Maurice, qu'un maudit courtisan, quelquefois censura, du chant de la victoire allant à l'opéra, percevoir des lauriers de la main d'une actrice. Ainsi quand Richelieu revenait de Mahon, il avait pris, pourtant en dépit de l'envie, partout sur son passage, il eut la comédie, on lui battit des mains, encore plus qu'à Clairon. Au théâtre d'Eschyle, avant que Melpomène, sur son cothurne altier, vint parcourir la scène, on décernait des prix accordés aux amants, ceux qui, dans l'année, avaient pour celui qui, dans l'année, avait pour sa maîtresse fait les plus beaux exploits, montré plus de tendresse, mieux prouvé par les faits ses nobles sentiments, se voyait couronné devant toute la Grèce. Chaque belle plaidait la cause de son cœur, de son amant aimé, racontait les mérites. Après un beau serment, dans les formes prescrites, de ne pas dire un mot qui sentit l'orateur, de n'exagérer rien, chose assez difficile aux femmes, aux amants et même aux avocats. On nous a conservé l'une de ces beaux débats, 12 enfants du loisir de la Grèce tranquille. C'était, il m'en souvient, sous l'archonte de la masse. Devant les Grecs charmés, trois belles comparurent, la jeune Néglée, Théone, et la triste Aspanis. Les beaux esprits de Grèce au spectacle accoururent. Ils étaient grands parleurs, et pourtant ils se turent, écoutant gravement, en demi-cercle assis, dans un nuage d'où Vénus, d'or Vénus avec son fils, prêtait à leur dispute une veille attentive. La jeune Néglée commence. Aiglée, simple et naïve, de qui la voix touchante et la douce candeur charmaient l'oreille et l'œil et pénétraient le cœur. Aiglée, Herbonyme, mon père, a consacré sa vie aux muses, aux enfants, talents, à des dons de génie qui des humains jadis ont adoucit les mœurs. Tout entier aux beaux-arts, il fuyait les honneurs, et sans ambition, caché dans sa famille, il m'a voulu donner pour époux à sa fille qu'un mortel comme lui, favorisé des dieux, cultivant tous les arts, et qui saurait le mieux, en vers nobles et doux, élégamment décrire, Ramer sur la toile et chanter sur la lyre. Ce peu devint un trait que m'ont donné les cieux. L'Igdabon m'adorait. Son esprit sans culture, devais-je vous l'avouer, beaucoup à la nature. Ingénieux, discret, poli, sans compliment, parlant avec justesse et jamais savamment, sans talent, il est vrai, mais sachant s'y connaître, l'amour forma son cœur, la grâce son esprit. Il ne savait qu'aimer, mais qu'il était grand maître dans ce premier des arts que lui seul il m'apprit. Quand mon père eut formé le dessein tyrannique de m'arracher l'objet de mon cœur amoureux et de ne me réserver pour quelque peintre heureux qui ferait de bons vers et saurait la musique, que de larmes alors coulèrent de mes yeux. Nos parents ont sur nous un pouvoir diaspotique, puisqu'ils nous ont fait naître, ils sont pour nous des dieux. Je mourrai, il est vrai, mais je mourrai soumise. Nycdamon s'écarta, confus, désespéré, cherchant loin de mes yeux un asile ignoré. 6 mois furent le terme où ma main fut promise. Ce délai fut fixé pour tous les prétendants. Ils avaient tous, hélas, dans leur triste talent, à peindre que l'ennui, la douleur et les larmes. Le temps qui s'avançait redoublait mes alarmes. L'Igdabon tant aimé me fuyait pour toujours. J'attendais mon arrêt et j'étais au concours. Enfin de 20 rivaux, les ouvrages parurent. Sur leur perfection, 1000 débats s'émurent. Je ne puis décider, je ne les voyais pas. Mon père se hâta d'accorder son suffrage au talent trop vanté du fier et du rare page. On lui promit ma foi, j'allais être en ses bras. Un esclave empressé frappe, arrive à grands pas, apportant un tableau d'une main inconnue. Sur la toile, aussitôt, chacun porta sa vue. C'était moi, je semblais respirer et parler. Cœur en long soupir paraissait s'exhaler, et mon air et mes yeux tout annonce que j'aime. L'art ne se montrait pas, c'est la nature même, la nature embellie, et par de doux accords, l'âme était sur la toile aussi bien que le corps, comme on voit au matin le soleil de ses traits percer la profondeur de nos vastes forêts, et dorer les moissons, les fruits et la verdure. Arpage en fut surpris. Il voulut censurer. Tout le reste se tut et ne put qu'admirer qu'un mortel et quel dieu, s'écriait Hermotine, du talent d'imiter fait un art si sublime. À qui ma fille enfin devra-t-elle sa foi? Nycdamon, se montrant, lui dit: elle est à moi. L'amour seul est son peintre, et voilà son ouvrage. C'est celui qui, dans mon cœur, imprima cet ouvrage. C'est lui qui, sur la toile, a dirigé ma main. Quel art n'est pas soumis à son pouvoir divin? Il les anime tous. Alors, d'une voix tendre, sur son luth accordé, ligdamon fit entendre un mélange inouï de sons harmonieux qu'on croyait être admis dans le concert des dieux. Il peignit comme appel, il conta comme Orphée. Arpage en frémissait, sa fureur étouffée s'exhalait sur son front et brillait dans ses yeux. Il prend un javelot de ses mains forcenées, il court, il va frapper. Oh, je vis l'affreux moment où le traître à sa rage immolait mon amant, où la mort d'un seul coup tranchait les destinées. Ligdamon l'aperçoit, oh, il n'en est point surpris, et de la même main, sous qui son luth résonne, et qui fait enchanter nos cœurs et nos esprits, il combat son rival, là-bas, et lui pardonne. Jugez si de l'amour il mérite le prix, et permettez du moins que mon cœur le lui donne. Ainsi parlait Églé. L'amour applaudissait, les Grecs battaient des mains, la belle rougissait, elle en aimait encore son amant davantage. Théone se leva, son air et son langage ne connurent jamais les soins étudiés. Les Grecs, en la voyant, se sentaient égayés. Théone, souriant, conta son aventure. En vers moins allongé, une autre mesure, qui court avec grâce et vont à quatre pieds. Comment fit Hamilton, comment fait la nature? Théone, vous connaissez tous Agathon, il est le plus charmant que Néré. À peine d'un laissant coton, sa ronde joue était parée, sa voix est tendre. Il a le ton comme les yeux de Cythérée. Vous savez de quel vermillon sa blancheur vive et colorée. La chevelure d'Apollon n'est pas si longue et si dorée. Je le pris pour mon compagnon. Et aussitôt que je fus nubile, ce n'est pas sa beauté fragile dont mon cœur fut le plus épris. S'il est des grâces de Paris, mon amant le bras d'Achille. Un soir, dans un petit bateau, tout auprès d'une île Cyclade, ma tante et moi goûtions sur l'eau le plaisir de la promenade, quand de Lydie un gros vaisseau vint nous aborder à la rade. Le vieux capitaine écumeur venait souvent dans cette plage chercher des filles de mon âge pour les plaisirs du gouverneur. À moi, je ne sais quoi le frappe. Il me trouve un air assez beau. Il laisse ma tante, il me happe, il m'enlève comme un moineau et va me vendre à son satrape. Ma bonne tante, en glapissant et la poitrine déchirée, s'en retourne au port du Pirée raconter au premier passant que sa Théone est égarée, que de Lydie un armateur, un vieux pirate, un revendeur, de la féminine denrée, s'en est allé livrer ma fleur au commandant de la contrée. Pensez-vous alors qu'Agathon s'amusa à verser des larmes, à me peindre avec un crayon, à chanter sa perte et mes charmes sur un petit psaltérion? Pour me voir, il prit les armes, mais n'ayant pas de quoi payer seulement le moindre staffier, et se fiant sur sa figure, d'une fille, il prit la coiffure, le tour de gorge et le panier. Il cacha sous son tablier un long poignard et son armure. et courut tenter l'aventure dans sa barque d'un autonnier. Il arrive au bord du méandre avec son petit attirail. À ses attraits, à son air tendre, on ne manque pas de le pendre pour une ouaille du bercail que l'on avait déjà fait vendre. Et dès qu'à terre il put descendre, on l'enferma dans son sérail, dans mon sérail. Je ne crois pas que de sa vie une fille ait jamais goûté le quart de la félicité qui combla mon âme ravie. Quand dans un sérail de Lydie, je vis mon grec à mon côté, et que je puis en liberté récompenser la nouveauté d'une entreprise aussi hardie. Pour époux, il fut accepté, et Dieu seul dernière paraître à cet hymen précipité, qu'elle n'était point là de prêtre. Et comme vous pouvez penser, des valets ont pu se passer quand on est sous les yeux du maître. Le soir, je s'attrape amoureux dans mon lit, sans cérémonie, vint expliquer ses tendres vœux. Il crut, pour apaiser ses feux, n'avoir qu'une fille jolie. Il fut surpris d'en trouver deux. Tant mieux, dit-il, car votre ami, comme vous, est fort à mon gré. J'aime beaucoup la compagnie. Toutes deux, je contenterai. N'ayez aucune jalousie. Après sa petite leçon qu'il accompagna de caresses, il voulait agir tout de bon. Il exécutait ses promesses. Je tremblais pour Agathon, mais mon grec, d'une main guerrière, le saisissant par la crinière, en tirant son estramaçon, lui fit voir qu'il était garçon, et parla de cette manière: Sortons tous trois de la maison, et qu'on me fasse ouvrir la porte. Faites bien signe à votre escorte de me suivre en aucune façon. Marchons tous les trois au rivage. Embarquons-nous sur un esquif. J'aurai sur vous l'œil attentif. Point de geste, point de langage. Le premier signe, un peu douteux, au clignement d'une paupière, à l'instant je vous coupe en deux et je vous jette dans la rivière. Le satrape était un seigneur assez sujet à la frayeur. Il eut beaucoup d'obéissance. Lorsqu'on a peur, on est fort doux. Sur la nacelle, en diligence, nous l'embarquâmes avec nous. Et sitôt que nous fûmes en Grèce, son vainqueur le mit à rançon. Elle fut en sonnante espèce, elle était forte, il m'en fit don. Ce fut ma dot et mon douaire, avoué. Il a su plus me plaire que le bel esprit fort digne d'amant, et que j'aurais fort à me plaindre s'il avait songé qu'à me peindre et qu'à me faire une chanson. Mais les Grecs furent charmés de la voix douce et vive, du naturel aisé, de la gaieté naïve de la jeune Théone, anima dans son récit. La grâce, en s'exprimant, vaut mieux que ce qu'on dit. On applaudit, on rit, les Grecs aiment à rire. Pourvu qu'on soit content, qu'importe qu'on admire. Apamis s'avança, les larmes dans les yeux. Ses pleurs étaient un charme et la rendaient plus belle. Les Grecs prirent alors un air plus sérieux, et dès qu'elle parla, les cœurs furent pour elle. Apanis raconta ses malheureux amours, un maître qui n'était ni trop long ni trop court, 10 syllabes par vers, mollement arrangé, noblement arrangé, se suivait avec art et semblait négligé. Le rythme en est facile, il est mélodieux, l'hexamètre est plus beau, mais parfois ennuyeux. L'astre cruel sous qui j'ai vu le jour m'a fait pourtant naître dans un matonte, lieu fortuné où la Grèce raconte que le berceau de la mer d'amour par les plaisirs fut apporté sur l'onde. Elle naquit pour le bonheur du monde, à ce qu'on dit, mais non pas pour le mien. Son culte aimable et sa foi douce et pure, à ses sujets n'avait fait que du bien, tant que sa loi fut celle de nature. Le rigorisme a souillé ses autels, les dieux sont bons, les prêtres sont cruels. Les novateurs ont voulu qu'une belle, qui par malheur deviendrait infidèle, alla finir ses jours au fond de l'eau, où la déesse avait eu son berceau. Si quelque amant ne se noyait pour elle, pouvait-on faire une loi si cruelle? Hélas, faut-il le frein du châtiment au cœur bien né pour aimer constamment? Et si jamais, à sa faiblesse en proie, quelque beauté vient à changer d'amant, c'est un grand mal, mais faut-il qu'on la noie? Tendre Vénus, vous qui fûtes de ma joie et mon malheur, vous qu'avec tant de soin j'avais servi avec le beau Babil, d'un cœur si droit, d'un esprit si docile, vous savez, je vous prends à témoin, comme jamais, et si j'avais besoin que mon amour fût nourri par la crainte des plus beaux nœuds de si pure la douce crainte, faisait un cœur de nos cœurs amoureux, Babil et moi, nous respirions les feux dont autrefois a brûlé la déesse. L'astre des cieux, en commençant son cours, en l'achevant, contemplait nos amours. La nuit savait qu'elle était ma tendresse. La reine Orax, homme indigne d'aimer, au regard sombre, au front triste, au cœur traître, d'amour pour moi parut s'envenimer, non s'attendrir où il fut bien connaître. Né pour haïr, il ne fut que jaloux, il dissilla les poisons de l'envie, il fit parler la noire calomnie. Ô délateur, monstre de ma patrie, né de l'enfer, hélas, rentrez-y tous. L'art contre moi mit tant de vraisemblance que mon amant lui-même fut si trompé, et l'imposture accabla l'innocence. Dispensez-moi de vous développer le noir tissu de sa trame secrète. Mon tendre cœur ne peut s'en occuper, il est trop plein de l'amant qu'il regrette. À la déesse en vain, je lui demandais mon secours, tout me trahit. Je me vis condamné à terminer mes mots et mes beaux jours dans cette mer où Vénus était née. On me menait au lieu de mon trépas. Un peuple entier mouillait de pleurs mes pas et me plaignait d'une plainte inutile. Quand je reçus un billet de Banville, fatal écrit qui changeait tout mon sort. Ô cher écrit, plus cruel que la mort, je crus tomber dans la nuit éternelle, quand je l'ouvris, quand j'aperçus ces mots, je meurs pour vous, fussiez-vous infidèle. C'en était fait. Mon amant dans les flots s'était jeté pour me sauver la vie. On l'admirait en poussant des sanglots. Je l'implorais. Ô mort, je t'implorais ma seule envie, mon seul devoir. On eut la cruauté de m'arrêter lorsque j'allais le suivre. On m'observa, plus le malheur de vivre. De l'imposteur, la sombre iniquité fut mise au jour et trop tard découverte. Du talion, il s'insuivit la loi. Son châtiment répare-t-il ma perte? Le beau bâti est mort. Et c'est pour moi. Tiens, je viens à vous, ô juge favorable, que mes soupirs, que mes funèbres soins touchent vos cœurs, que j'obtienne au moins un appareil à des maux incurables. À mon amant dans la nuit du trépas, donnez le prix que ce trépas mérite, qui se console aux rives du Cocyte. Quand sa moitié se console pas, que cette main qui tremble et qui succombe, par vous, bonté encore, se ranimant, puisse à vos yeux écrire sur sa tombe, Athènes et moi couronnons mon amant. Disant ces mots, ses sanglots l'arrêtèrent. Elle se tut, mais ses larmes parlèrent. Chaque juge fut attendri. Pour régler d'abord, ils penchèrent. Avec Théon, ils avaient ri. J'ignore, et j'en suis bien mari, quel est le vainqueur qu'ils nommèrent. Au coin du feu, mes chers amis, c'est pour vous que je transcris ces contes tirés d'un vieux sage. Je m'en tiens à votre suffrage. C'est à vous de donner le prix. Vous êtes mon aréopage.